m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole dans ce nouveau numéro de Paroles aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. Le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi par audioconférence le vendredi dernier a levé l'option sur la prolongation de la durée de l'état d'urgence sanitaire. Certains observateurs estiment qu'avec cette probable prolongation qui allonge aussi certainement la mesure des suspensions des enseignements à tous les niveaux, il y a à redouter une année blanche sur toute l'étendue de la République. Une autre opinion pense qu'il est encore possible de récupérer l'année scolaire et académique 2019-2020. Alors qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 6330 ou encore au 09 97 06 4969 pour votre intervention en direct. 12 576 personnes ont été touchées par ces sujets, 1696 ont interagi et nous avons enregistré 175 commentaires parmi ces personnes et 40 l'ont partagé. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Sylvain Baugueré assure la mise en onde de cette émission réalisée par Tatima Poukou, J.R. Lungembo Luabung Anji présente et coordonne cette émission. Bienvenue à tous.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Okapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson. Nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Nous avons en ligne M. Lambert Mbadou qui est avec nous. Bonjour M. Lambert.
Bonjour M. JR.
Vous êtes le prophète de Kinshasa Ouest. Est-ce qu'une année blanche peut être envisagée en dépit de la pandémie, de la maladie à coronavirus qui touche également la RDC?
Bon, absolument pas. D'ailleurs, son excellence le ministre d'État, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, s'est exprimé là-dessus. Monsieur Gier, vous savez très bien que nous avons déjà fait les trois quarts de l'année. Donc, les premiers, les deuxièmes trimestres sont plus longs que les troisièmes trimestres. Donc, pour le moment, si nous avions fonctionné normalement, aujourd'hui, nous devrions reprendre les cours pour les troisièmes trimestres. Sachez-le très bien que les enseignants dans l'élaboration des prévisions de matière, ils tiennent compte de cette répartition. Donc au troisième trimestre, il ne reste plus grand-chose. Donc on ne peut pas envisager, si les choses évoluent normalement, une année blanche, parce qu'on a déjà fonctionné durant les trois quarts des années de l'année scolaire.
Alors, durant cette période de suspension des cours, le ministre a appelé les élèves des années terminales à continuer de préparer le TENAFEP ou l'examen d'État. Mais par quels moyens? Et ils vont le préparer avec qui?
Eh bien, il y a eu des initiatives, bien sûr. Le ministre a levé cette option qui est géniale, qui est responsable. Et chaque province éducationnelle prend des initiatives. Pour la ville de Kinshasa, nous avons créé un comité provincial d'urgence pour voir comment faire la continuité pédagogique. Pour le moment, on a déjà élaboré des leçons, on a déjà élaboré des questionnaires, spécialement pour les classes de finalistes. Et donc, je crois que cette semaine, tout va être lancé.
Et donc, oui, est-ce qu'en élaborant ce questionnaire, avez-vous tenu compte de cette situation exceptionnelle? Parce que si la matière, le un quart qui reste, si jamais des questions sont posées dans ce sens-là, quelle sera la réaction des élèves?
Bon, sachez-le, monsieur, tout le monde aspire au retour à une vie normale. Ces matières-là, ces questionnaires-là tiennent compte des matières
non vues.
Et il y a des réactions. Nous nous sommes organisés. Il y a des plateformes dans la ville de Kinshasa. Il y a la plateforme provinciale et il y a des plateformes au niveau de chaque zone inspectorale. Et donc, les enfants vont avoir ces questions. Il y a des cahiers de questions, ces leçons. Nous sommes organisés. Nous sommes dans un environnement numérique. La ville est en partenariat avec six chaînes de radio-télévision. Eh bien, on va essayer de tenir compte de cet environnement numérique.
Donc, si je comprends bien, c'est possible de sauver cette année scolaire de l'année blanche.
Mais bien sûr, pour le moment, c'est possible. Même s'il faut, parce que le ministre a fait un démenti, il y a eu...
des messages sur les réseaux sociaux.
Des rumeurs, non, il s'est exprimé en faux, il a démenti cela. Mais si jamais ça continue, et comme nous avons déjà fait les trois quarts de l'année, eh bien, c'est lui qui a ce mandat constitutionnel de révisiter le calendrier scolaire, mais on ne peut pas sacrifier cette année que nous avons déjà parcouru.
Une longue distance.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Alors donc, si je comprends bien, on peut sauver cette année. Vous l'avez dit, une bonne partie des matières a été déjà enseignée. Les élèves finalistes doivent déjà se préparer pour les TENAFEP ou l'examen d'État. Mais les examens pour les autres, est-ce qu'ils peuvent continuer à réviser? Ça, c'est selon encore les propos du ministre. Les autres, c'est-à-dire des classes inférieures, peuvent continuer à réviser la matière seuls ou avec un guide?
Ben, avec un guide, je vous ai dit qu'on s'est organisé. Il y a les plateformes au niveau des zones inspectorales.
Mmh. Mais il n'y a pas de rassemblement.
Il n'y a pas de rassemblement. On va envoyer des questions sur les plateformes, sur la matière, les leçons. Eh bien, tout est en train de se faire. Je crois que cette semaine, vous vivrez.
Est-ce que cela touche tous les élèves? C'est possible que cela touche les élèves dès lors qu'on sait qu'il y a des problèmes dans la numérisation aujourd'hui avec l'Internet, le courant et tant d'autres problèmes, d'autres défis que nous avons à relever?
Eh bien, nous y avons pensé. D'ailleurs, par exemple, pour les communes urbaines, urbano-rurales, il y a un cahier de questions qui est en train d'être, qui a été élaboré et nous comptons aller déposer ça dans ces écoles qui ont des problèmes de bénéficier des progrès de la technologie.
Voilà. Voilà, nous vous gardons en ligne, Monsieur Mbadou, le temps d'accueillir d'autres auditeurs qui vont interagir avec nous dans cette question sur si c'est vraiment possible de sauver, disons, l'année scolaire 2019-2020. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi, Alain Bolodjou à Kinshasa. Gardez la ligne et ceux qui veulent réagir aussi dans cette émission, ils peuvent composer les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969.
Radio Okapi. À Mahagui, Okapi, sur 96 FM.
Okapi. Est-il possible de sauver cette année scolaire 2019-2020 en dépit de cette pandémie? Alors, quels sont les préalables pour vous, Jérémy? Vous êtes avec nous à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur JR. Bonjour également à l'invité. Je pense que sauver cette année pour qu'elle ne soit pas blanche, cela n'est pas... la magie, bien sûr, parce qu'il y a encore la possibilité, parce que le deux tiers étant déjà accompli, je pense qu'il y a encore c'est une possibilité que les choses s'organisent dans ce sens. Parce que, vous savez, lorsque l'année commence, il y a d'abord le trimestre. Par exemple, si on est en primaire, il y a les trimestres, le premier qui est d'ailleurs le plus long trimestre, il y a le deuxième également. Donc, c'est-à-dire l'enfant a déjà... organisé, donc a déjà réalisé la plus grande de partie, parce que il y restera seulement un tiers sur les trois tiers. Ça veut dire que et cela ne peut prendre qu'un mois et demi. Donc, vous savez, lorsque quelqu'un a parcouru une course comme cela, une longue course, lui priver un mois et demi et ne pas atteindre son objectif, c'est peut-être un problème. Mais je vois que là où le problème se pose, c'est peut-être au niveau supérieur et universitaire. Parce que vous savez que là-bas, c'est en termes de cours, chaque professeur passe avec son cours. Et lorsque vous n'avez pas assisté à son cours, c'est supposé que pour vous, il est dit d'ailleurs dans les règlements des institutions supérieures qu'il faut au moins réaliser les gros des cours. Mais il se fait malheureusement que pour la plupart, il y a des cours jusque-là qui n'ont pas encore... n'est-ce pas commencé, cela peut poser encore préjudice.
Donc si je comprends bien pour vous, les problèmes ne se posent pas au niveau de l'école primaire, par exemple, parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant, il sait comment jouer pour arriver finalement à examiner ses élèves. Mais au niveau des secondaires, il y a également de multiples enseignants qui entrent, il y a un faisceau d'enseignants, oui. Alors ça risque également de poser problème, comme vous venez de le reconnaître au niveau de l'université, qui se retrouve pratiquement dans la même situation.
Effectivement, dans ces lignes secondaires et universités, donc c'est pratiquement la même chose parce que il faut que chaque professeur termine nécessairement son cours. Vous savez que à ce stade où la pandémie continue encore à dicter sa loi, je pense que c'est comme quand vous avez deux enfants, bien évidemment, c'est-à-dire l'enfant est malade et il y a l'autre qui veut terminer le cycle peut-être secondaire. Mais vous regardez celui qui est malade, c'est celui sur qui on peut compter parce que la santé prime sur toutes les choses. Vous savez, dans la figure, nous sommes en train de passer, donc il revient. Donc c'est pas bien évidemment que il faut d'abord privilégier l'étape de la santé. Mais dans cette figure, il faut sauver l'année parce que les élèves, les étudiants ont déjà réalisé les gros. Mais il faut maintenant qu'on puisse un peu organiser peut-être des séances marathon parce que vous savez que les enfants, c'est supposé qu'ils devaient être en vacances au jour d'aujourd'hui. Et maintenant, ils devaient reprendre, bien sûr, ce lundi. Mais ils ont perdu deux semaines. Il
fallait peut-être... Pensez-vous, Jérémy, que l'autorité scolaire s'y est prise à temps? Il a des dispositions prises aujourd'hui pour sauver l'année. Ils ne sont pas prises tard?
Je pense que je peux vous donner un peu les tableaux ici à Lubumbashi. J'ai vu certaines écoles déjà prendre les devants. Je ne peux pas les citer, mais il y en a eu qui... Non, ils ont donné des révisions aux enfants. Les enfants commençaient déjà à réviser pendant ces vacances. Donc, c'est-à-dire, il fallait aussi avoir une vision lointaine pour voir... Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on joue à la prudence pour voir qu'est-ce qui peut arriver. Il peut se faire, si, parce qu'il n'y a que le si qui est là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si l'État arrivait peut-être à prolonger, alors cela peut handicaper certaines choses. Mais si il arrivait que l'État trouve qu'il est nécessité pour que le déconfinement ait lieu, cela peut, la situation peut reprendre normalement. Mais il se fait malheureusement que nous sommes entre deux situations.
Donc si je comprends bien, vous envisagez le déconfinement partiel ou progressif, si on peut peut-être rouvrir déjà les écoles petit à petit, progressivement, avec d'autres mesures pouvant lutter contre la pandémie. Donc vous plaidez déjà pour le déconfinement progressif.
Effectivement, je pense que le déconfinement allait être progressif. Ça veut progressif, ça veut dire qu'on devait d'abord privilégier dans les cas de stress. Parce qu'il peut, monsieur JR, si les élèves, je donne un exemple, ceux qui sont en primaire, rentrer là, ils peuvent ne plus qu'étudier un mois et demi et finir totalement les cours. Ça, c'est un fait. Mais pour ceux du secondaire, ils doivent également suivre les cours et terminer. Et aussi, à l'université, tout comme aux études supérieures, on peut peut-être obliger aux professeurs d'organiser des séances marathon, même dimanche, pour qu'on arrive à terminer le programme. Et je pense que dans les cas spécifiques, on peut rattraper le temps et pouvoir terminer tout le programme et envisager peut-être une année non blanche, parce que donner une année blanche à ce stade, c'est peut-être, en tout cas, gâcher tous les efforts consentis par les parents. Et je me demande, monsieur, dans les cas spécifiques, vous savez, les enseignants, parce qu'il faut prévoir tous les paramètres possibles. À ce stade, si on arrêtait tout aujourd'hui, et vous savez qu'il y a beaucoup d'écoles privées, parce que l'État n'a pas beaucoup d'écoles, ça, ce n'est pas un secret. Alors, pour la plupart, ce sont des écoles privées. Imaginez-vous les enseignants qui n'ont pas été préparés psychologiquement, et ils sont renvoyés en congé technique. sans que cela soit préalablement prédéfini.
Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. Je retiens pour vous. En tout cas, vous plaidez déjà pour le déconfinement progressif. Si jamais on pouvait lever l'option de pouvoir reprendre progressivement les écoles, ça pourrait sauver l'année. Alain Bolodjo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Quelle est votre réaction, Alain? Voilà, Alain, vous avez, vous n'êtes pas en ligne. Il est temps de retrouver notre invité Lambert Mbadou, qui est le prophète de King West. Quelle est votre réaction lorsque vous entendez, par exemple, Jérémy proposer un déconfinement progressif? Ça pourrait aider tant soit peu à pouvoir sauver l'année.
Bon, pour cette façon de voir, moi, je me remets aux experts. Hein. Je n'ai rien à dire là-dessus, mais notre souhait, nous tous, c'est le retour à la vie normale. Tout dépend du constat fait par les experts. De toutes les façons, je suis pour sa façon de voir, c'est que on ne peut pas aujourd'hui parler d'une année blanche parce qu'on a déjà parcouru les trois quarts de l'année.
De trois quarts de l'année. Alors, les enseignants, en ce moment, parce que nous savons qu'effectivement, il y a eu des contrôles avec les inspecteurs, est-ce qu'au niveau des plateformes, il y a un suivi également des enseignants?
Au niveau des plateformes, notre préoccupation principale, c'est atteindre les cibles, c'est-à-dire les enfants.
Les enfants.
Alors, cela est fait par un groupe d'inspecteurs. Vous savez que c'est l'inspection qui a l'expertise en cette matière et qui part des prévisions des matières, qui part des programmes et qui élabore des leçons et des devoirs au regard des prévisions des matières, au regard du programme. Donc les professeurs ne sont pas directement impliqués dans cette histoire, ils sont représentés par les inspecteurs qui ont...
Voilà. Alors, il y a un enseignant qui nous a rejoint au niveau du Congo central. Simon Tsiloulou, vous êtes syndicaliste au niveau de CIECO. Je crois CIECO ou CINECAT. Alors, comment réagissez-vous lorsque les enseignants eux-mêmes ne sont pas impliqués dans cette plateforme qui, en fait, n'a que comme objectif, c'est-à-dire la cible, les élèves. Et aujourd'hui, est-ce que ne vous sentez pas, vous, laissé pour compte, abandonné, et que lorsque il y aura des confinements, vous serez surpris de reprendre l'école où vous vous préparez par rapport à cette situation exceptionnelle?
Oui, merci beaucoup, et je salue l'invité Lambert Mbadou, un vaillant enseignant et puis un proverbe exemplaire. Et je pense que le monde a beaucoup évolué aujourd'hui. Ce que nous devons subir hier, aujourd'hui, on peut l'éviter. Au Congo central, d'abord, avant de commencer, je vous donne les statistiques en termes de temps et en termes de leçons. Tel que nous sommes là, il y a trois mois, donc il n'y avait que 12 semaines pour les trois mois qu'il fallait enseigner. À écrire les dimanches, vous verrez que les 12 semaines, nous resterons seulement avec 8 semaines. Pourquoi 8 semaines? Parce que pendant au troisième trimestre, il y a tout un mois où on fait la révision des matières. À part révision, il y a des examens, il y a la deuxième session qui prend tout un mois. Donc il ne nous reste que 2 mois. Sur les 2 mois, nous n'avons que 8 semaines. Sur les 8 semaines, quand vous calculez pour l'enseignement général, qui a 6 heures par jour, vous verrez qu'il ne reste que 288 leçons à donner. Et pour l'enseignement technique, si il y a 7 heures par jour, vous verrez qu'il ne nous reste que 360 leçons à donner. Et de ce fait-là, vu le nombre très réduit de leçons à donner, il y a moyen aujourd'hui, on a des radios et des télévisions, tout ça. Au Congo central, nous avons étudié, parce que je fais partie de la commission qui travaille sur l'enseignement à distance. Nous avons étudié les contours et les problèmes des élèves qui sont en confinement à la maison. Et pour ne pas exposer à la mort de plusieurs personnes, nous avons accepté le confinement. Maintenant, l'enseignement à distance, ça veut dire les leçons, les classes sont déplacées dans des maisons. Donc les maisons peuvent devenir des classes...
Est-ce que ça marche, à Matadi par exemple, est-ce que ça marche?
À Matadi, non, je pense que pas seulement Matadi, même l'intérieur. Nous avons fait ceci. On a réparti ces leçons.
On a pris domaine par domaine, classe par classe, de première, primaire en quatrième année des humanités. Nous avons fait des systèmes en boucle. Et nous avons pris des enseignants par l'inspection. Les inspecteurs ont choisi des enseignants à l'école primaire. On a pris six enseignants, donc première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et au secondaire, on a pris les enseignants selon le domaine. Le domaine, par exemple, d'anglais.
Oui, mais même alors, Simon, mais les enseignants ont été dispensés pas au même rythme. Il y a certains professeurs qui étaient en avance et d'autres, dans d'autres salles de classe, étaient en retard.
Non, oui, s'ils sont en retard, nous allons comprendre ceux qui sont en retard parce qu'il y a l'inspection. Nous, ici, dans des provinces, les inspections sont sur le terrain, ils y travaillent. L'inspection a fourni au niveau de la commission de l'enseignement à distance certaines failles de leçons en retard. Et nous avons pris ça en compte lorsque on va faire des leçons de résumé. Le résumé veut dire on prendra en compte aussi des leçons raté ou manqué dans ce sens-là. Et nous allons maintenant faire des enregistrements qu'on va envoyer dans toutes les radios parce que nous avons compris que l'effort doit être conjugué sur tous les organes. L'enseignement travaille et nous également, la presse se met pour que les leçons. On va faire une semaine de sensibilisation pour dire que telle classe, pour tel cours, l'enseignement passera à la radio à tel endroit, à tel endroit. Pour ceux qui n'ont pas, il y a des problèmes de courant. On a encouragé aux parents d'acheter des petits radios ici qu'on vend à 3000 francs.
C'est pratiquement une dépense de plus en ce moment de confinement. C'est une dépense de plus à demander aux parents.
Non. Il y en a quand même de manière rarissime. Donc, parce que dans des villages, ils ont des téléphones et nous avons des devoirs. On a fait ceci. On a créé des sites. À Matadi, on a fait 47 sites. Donc, nous avons ciblé 47 écoles. Lorsque les parents, parce qu'on a compris que donner des interrogations, ce ne sera plus possible. On donne les devoirs liés à la leçon. L'enfant travaille les devoirs, les parents vont déposer les devoirs dans le site. Et le site va faire le dispatching parce qu'il y a les préfets des écoles qui vont
Merci beaucoup, Simon.
Nous avons déjà pris toute la disposition. L'idée de l'année blanche au Congo central, c'est déjà parti au passé.
Merci beaucoup, Simon Tsiloulou, de nous avoir partagé l'expérience de Matadi. Edmond Mbokolo, vous êtes en Bandaka. Bonjour. Comment ça se passe en Bandaka?
Bonjour, monsieur Gilles. Bonjour également à tous les auditeurs. Et je salue également l'invité.
Comment ça se passe en Bandaka? C'est encore possible de sauver cette année scolaire?
Merci beaucoup. En tant qu'assistant à la faculté de droit à l'université de Mbandaka, j'interviens plus en ce qui concerne l'année académique. Moi, par rapport à la thématique du jour, je partage l'avis avec ceux qui pensent que l'année blanche ne peut être conçue, envisagée à ce moment. Et l'année académique scolaire en cours peut être sauvée du fait que depuis la prise des mesures par les chefs de l'État, j'espère bien c'était en date du 18 mars dernier, il s'est écoulé seulement un mois qui du reste est récupérable. Par rapport à l'année académique, moi en tant qu'assistant à la faculté des droits, à l'UNIMA, je pense que le temps perdu ne pourra perturber les calendriers académiques pour nous qui sommes de l'enseignement supérieur. Je crois que nous avions achevé le premier semestre, et aujourd'hui, le 20, c'était, selon le calendrier académique, c'était la date prévue pour la reprise des cours après le congé de Pâques. J'espère bien que, on attend, la date où le président va prendre l'ordonnance pour Roja, ou, mettant fin à l'état d'urgence, mais j'espère que si les mesures sont prolongées, il y a moyen pour notre ministre de l'enseignement supérieur, Thomas Louaka, de pouvoir modifier l'instruction académique du 15 octobre 2019 et voir aussi s'il y a possibilité de permettre aux institutions supérieures qui sont en province de pouvoir fonctionner en attendant que certaines provinces qui sont touchées par le coronavirus et que la situation soit améliorée.
Oui, Edmond, avant d'entrer dans ce studio, j'ai pris langue avec les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, Thomas Louaka, pour ne pas les citer, et il m'a laissé entendre, il m'a autorisé d'ailleurs de les dire qu'en ce moment, il y a des experts qui sont en train de réfléchir comment sauver l'année. Alors pour vous, cela passera par quel préalable? Quelles sont les dispositions qui peuvent être idoines?
Voilà, moi je crois que pour l'enseignement supérieur, ça ne peut pas se poser un problème, parce que, tel que je l'ai dit, Le ministre sait bien que nous avions déjà achevé. Le premier semestre a été achevé. On a passé les premières sessions ou les mi-sessions. Et j'espère qu'on a entamé. C'était juste à l'entame du deuxième semestre que les enseignements ont été suspendus. Et j'espère bien que le 31 juillet, l'année académique se clôture. Donc on peut récupérer les mois d'août et les mois de septembre qui sont pour les vacances, mm-hmm. parce que la deuxième session est prévue pour le mois d'octobre, mm-hmm. début octobre, deuxième session. Donc on peut récupérer les deux mois de vacances
c'est
pouvoir permettre aux enseignants de pouvoir achever les enseignements. Et j'espère bien que l'année ne peut pas être déclarée année blanche.
Merci beaucoup Edmond. Vous estimez qu'au niveau des universités, des études supérieures et universitaires, les problèmes ne se posent pas avec Acuité autant comme au niveau de primaire et secondaire. Mais de l'autre côté également, les experts disent que déjà, comme les trois quarts des matières ont été déjà dispensées, il y a lieu de pouvoir éviter une année blanche. Merci beaucoup Edmond. Josué, vous êtes à Bukavu. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour Josué.
Bonjour Gilles, je suis Josué Assani, coordonnateur national du mouvement citoyen Rien sans le peuple.
Quelle est votre contribution, Josué?
En fait, faut qu'il n'y ait plus l'année blanche, ou bien que. Donc, tout dépendra de la volonté politique. C'est-à-dire, en ce qui concerne l'analyse que j'ai faite, nous avons constaté dans le mouvement citoyen Rien sans le peuple l'inefficacité de certaines mesures prises par les chefs de l'État. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a donné tout un conglomérat de mesures, des mesures pour pouvoir faire face au coronavirus. Mais cependant, il y a des mesures qui ont montré en tout cas leurs limites, qui sont en tout cas inefficaces contre le coronavirus. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'évaluation. Maintenant, ma préoccupation est de savoir, après avoir fait l'évaluation de toutes les mesures qui ont été prises pour faire face au coronavirus.
Oui, Josué, que faire pour sauver l'année scolaire 2019-2020 et l'année académique 2019-2020? Que faire?
Oui, j'arrive.
Allez-y rapidement.
Vous l'êtes. Cette année.
Oui, allez-y.
Oui, j'y vais. Moi, dans une bonne atmosphère pour parler. Pour ce faire cette année académique, il faut la bonne volonté politique. C'est-à-dire, il faut la reprise normale des cours. Parce que la fermeture des écoles, ce n'est pas en tout cas la solution pour lutter contre le coronavirus. Parce qu'on avait fermé les écoles, mais le coronavirus a toujours pris la vitesse du train. Vous, après s'être rendu compte de l'inefficacité de certaines mesures, il faudrait l'ouverture des écoles, des églises, parce que ce ne sont plus les vraies causes de propagation de cette maladie à coronavirus. Donc tout dépendra de la volonté politique. Allez-y comprendre, par exemple, ici à vous, il y a des décisions à défaut des mesures. Les gouverneurs de la province du Kivu pour pérenniser l'acquis ou bien l'élan scolaire, il a mis en place l'enseignement ou bien les programmes d'enseignement à distance. Mais ces programmes-là ne concernent que les enfants de maternelle, primaire et secondaire. Maintenant, ceux qui sont à l'université, est-ce que ces programmes aussi ne peuvent pas s'adapter aux étudiants également? Parce que c'est eux qui sont vraiment dans un niveau plus élevé, ces programmes peuvent s'adapter.
Merci beaucoup.
Donc, tout dépendra de la volonté politique.
La volonté politique.
Si les politiques veulent, en tout cas, ça va aller, mais si...
Merci beaucoup. Alors, on va prendre quand même un expert dans les secteurs de l'enseignement. Lui, il est secrétaire général, disons au niveau de Sinecat. Oui, Jean Bosco Pouna, secrétaire général de Sinecat, le syndicat national des écoles conventionnées catholiques. Jean Bosco, vous êtes avec nous?
Oui, JR.
Et quelle est votre lecture sur la façon que les autorités de l'enseignement primaire et secondaire gèrent cette situation exceptionnelle?
Bon, merci JR pour la parole accordée. Il faut déjà dire que nous avons perdu 16 jours de cours. Et donc les élèves viennent de terminer les vacances, c'est 12 jours. En réalité, aujourd'hui, pour... dire comme les autres intervenants, nous devrons commencer les cours, donc le 20 avril. Ce que nous pouvons dire à notre niveau en tant que Sinecat, eh bien nous remarquons que le ministère de l'EPST ne communique pas assez. Il est important aujourd'hui que le ministère puisse faire, en tant que conseiller du gouvernement en matière de l'éducation, qu'ils puissent donner la proposition du calendrier aménagé pour préparer les élèves, les enseignants, les parents et même le comité technique de la riposte, afin que des dispositions soient prises. C'est vrai que nous disons que l'année blanche n'est pas de mise, mais il faut compter 45 jours pour que cette année ne puisse plus être valable. Jusqu'aujourd'hui, on est encore très loin. Voilà pourquoi nous, à notre niveau, nous pensons que le ministère de l'EPST, en tant que conseiller du gouvernement, qu'il puisse déjà sortir un calendrier aménagé. Donc, si nous prenons le 20 avril jusqu'au 20 mai, ce mois pourra permettre, avec les propositions que le gouvernement, que le ministère va devoir faire, ce mois pourra permettre au gouvernement et au comité technique de la riposte, probablement de pouvoir envisager de désinfecter les écoles et diriger peut-être les dispositifs de lavage de mains dans les écoles, mais aussi organiser les dépistages, je pense, des élèves de manière obligatoire et du personnel enseignant. Ça pourra nous permettre de gagner du temps pour que lorsque nous allons, effectivement, lorsque le chef de l'État va devoir probablement lever la mesure, que personne ne soit surpris. Et pour nous, nous proposons qu'on reprenne directement avec les évaluations. N'oubliez pas que le mois de mai et le mois de juin sont des mois qui étaient prévus pour les évaluations. Étant donné qu'il y a une bonne partie des matières qui ont été déjà données, nous pensons qu'on doit penser, qu'on doit passer directement aux évaluations. Mais il y a des préalables. Si ces préalables-là ne sont pas garantis, eh bien, ça sera de la théorie que de dire que l'année ne sera jamais blanche. Il faut que ces préalables soient réunis
pour que
le moment venu, que les élèves puissent normalement reprendre.
Donc, quand vous parlez de préalables, c'est-à-dire, vous demandez à l'instant au ministère de l'EPSP de proposer un calendrier aménagé et deuxièmement, de communiquer assez sur ce qui se passe, les dispositifs ou les dispositions prises par le ministère. Que ça
tout
soit clair,
fait.
Parce que finalement, on a l'impression que chaque sous-provède ou chaque province éducationnelle prend des dispositions à sa manière. À Kinshasa, ce sont des provèdes et des plateformes qui sont placées. À Matadi, on a remarqué que ce sont des enseignants, eux-mêmes ont pris des dispositions.
De toutes les façons, toutes ces plateformes, je suis certain, sont coachées par le ministère de l'EPST, ce qui est vrai. Mais je parle beaucoup plus des conseils que le ministère de l'EPST doit donner au gouvernement pour que le gouvernement prenne toutes les mesures qui s'imposent afin que les comités techniques de la riposte puissent envisager quelque chose dans le sens des écoles. Donc il faut absolument que ce calendrier aménagé sorte et que ça soit communiqué au gouvernement. Et nous pensons qu'on donne un mois au gouvernement pour que l'on commence à voir ce qu'on pourra faire au niveau des écoles. Parce que si au niveau des écoles, on commence cette opération de décontamination des infrastructures scolaires, je crois que le gouvernement pourra avoir ses moyens, eh bien, il y a lieu de pouvoir envisager la reprise des enseignements. Pour ça, même le gouvernement a envisagé la reprise des enseignements. Parce qu'on ne peut pas exposer les élèves. Les enseignements à distance, etc., ça, c'est juste un renforcement des capacités. Mais il est difficile de remplacer les maîtres dans une salle de classe parce qu'il y a de nouvelles leçons, en principe, qui devraient être données. Voilà pourquoi nous, au niveau du Sénécat, nous proposons qu'on puisse interroger sur les matières déjà vues, mais que cette période du 20 avril jusqu'au 20 mai, qu'on puisse préciser tous les partenaires, notamment les parents, les enseignants, les élèves, quant à la reprise des enseignements.
Oui, mais pour les finalistes de terminale, TENAFEP et l'examen d'État, les questionnaires sont déjà élaborés et je crois que c'est bien avant même que cette situation n'arrive. Alors, comment ils vont faire les matières non vues, si des questions, les élèves sont surpris par ces genres de questions sur les matières non vues?
Bon, c'est compliqué. Je crois que c'est une année tout à fait exceptionnelle. Même les experts qui vont devoir préparer les questionnaires, eh bien, je crois que cette année, ça doit être revu, ça doit être présenté autrement. Parce que sinon, eh bien, ça sera très difficile pour les élèves. Vous voyez, avec tout le temps que les élèves mettent à la maison, eh bien, il y a déjà, au niveau psychologique, vraiment une fatigue, un désintéressement. Le cœur n'y est plus à l'ouvrage. Et donc, il faut, lorsque nous allons reprendre une période qui va devoir relancer les élèves afin qu'ils soient psychologiquement préparés pour affronter les épreuves. Et nous proposons que l'on ne puisse interroger que sur les matières vues évidemment, l'enseignant, il a à transmettre les connaissances, il a aussi à évaluer. Mais les évaluations, ce n'est pas une punition. Mmh. Hein, c'est-à-dire qu'on peut évaluer sur les matières vues, étant donné que cette année a été tout à fait exceptionnelle. Mais nous continuons à dire, il faut absolument qu'on se mette à travailler maintenant pour préparer tous les partenaires qui doivent reprendre les enseignements et pourquoi pas décontaminer les écoles.
Merci beaucoup Jean Bosco Pouna d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Nous rappelons que vous êtes le secrétaire général de Cinécat. Une fois encore, merci et à très bientôt. Voilà, on poursuit cette émission avec vous, Omar Kigalo. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour Omar.
Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà, vous avez la parole Omar. Quelle est votre contribution?
Merci beaucoup JR du que vous m'adjugez. Les experts ont parlé. J'ai fait même leurs interventions pertinentes. JR, nous sommes en guerre, comme l'a dit le président français et le président Félix. Il y a un problème sérieux. Aujourd'hui, nous sommes bloqués. Tous les secteurs de la vie ne fonctionnent pas, même l'enseignement. Je félicite en passant les ministres de l'enseignement, je crois qu'il passe à la télé souvent dans sa chaîne Educ TV, qui enseigne. Mais cette méthode, selon nous, est une méthode insuffisante dans la mesure où tous les enfants n'ont pas de télévision, encore tous les étudiants. Je félicite encore les gens de Bakongo, je crois, M. Tsing, il a dit, les syndicalistes, elle a dit, ils ont créé des mécanismes qu'il faut encourager, mais seulement ces mécanismes ne vont pas jusqu'au village. Et puis, il faudra noter une chose, lorsqu'on parle de la mobilisation des enseignants, on fait allusion aux écoles publiques, où c'est l'État qui paye. Au niveau des écoles privées ici à Kinshasa, beaucoup des patrons ont rompu leur contrat avec leurs enseignants. S'il faudra parler des mécanismes forts pour sauver l'année, c'est lui qui est à la base de l'enseignement, c'est l'élève et l'enseignant. Si l'enseignant n'est pas motivé, rien ne marchera. Mais je pense, juste avant de répondre à votre épineuse question, c'est comment sauver cette année académique? Est-ce possible, elle va continuer cette année scolaire ou académique? Moi, je pense, hier, chaque crise est une occasion de réfléchir et de porter des solutions. D'ailleurs, dans les dictionnaires chinois, le mot crise n'existe pas. Ils ont remplacé ces mots par opportunité. Aujourd'hui, partout ailleurs, il faudra d'abord déplorer une chose. Le système académique congolais, le système scolaire congolais est très archaïque. On continue à écrire au tableau, on continue à avoir des cahiers de notes. Ailleurs en Europe, même ici dans beaucoup de pays en Afrique, il n'y a plus de système d'écrire au tableau des cahiers de notes. Les élèves ont toutes leurs notes dans les iPads. Et les professeurs ne viennent qu'appliquer la méthode ORA. On appelle ça observation, réflexion et action. Il y a des écoles à qui, malheureusement, ils ne sont pas nombreuses qui l'appliquent, comme l'école émergence et les autres. Avec ce système, si ça existait, on n'aurait pas des inquiétudes qu'on fait aujourd'hui. Avec ce système, dès le début de l'année, les élèves dans leur iPad ont toutes les notes de l'année. Ils n'ont que deux cahiers, le cahier d'exercice de maths et de français, c'est tout. Si on avait ce système au Congo, avec cette technologie avancée, on n'aurait pas à s'inquiéter, parce que même à la maison, les élèves continueraient à revoir leurs notes. Ailleurs, même en Afrique, dans beaucoup de pays, il y a même le système de téléenseignement. L'élève qui est malade reste à la maison et il suit les cours de la salle à partir de sa maison. Donc, c'est une occasion pour nous, dans cette crise, de réfléchir et de réformer notre moyen d'enseigner, parce que ailleurs, cette crise ne les inquiète pas. Deuxième chose, la loi sur l'enseignement de 2014, l'enseignement académique, l'enseignement scolaire, prévoit que chaque enseignant a ce qu'on appelle des documents pédagogiques. Et le plus important, c'est ce qu'on appelle les cahiers de prévision des matières, dans lesquels l'enseignant prévoit tout ce qu'il va enseigner. Si vous allez sur terrain, vous menez les enquêtes, toutes les prévisions, généralement, je crois que les experts vont pas me contredire, finissent au mois d'avril. C'est-à-dire les mois de mai, de juin et de juillet sont des mois consacrés à la révision, aux examens ainsi qu'à la proclamation. Mais sur terrain, on se rend compte que les prophètes qui vous avaient invités, les inspecteurs, ne font pas leur travail. Il y a des enseignants au mois de mai qui enseignent la leçon des 2 février. Donc je pense, avant de passer aux solutions pratiques que je vais donner bientôt, il faudra que cette crise nous réveille, car chaque crise est une occasion de mieux faire. Nous devons informatiser nos enseignements, des deux. On doit éviter les méthodes anciennes avec les enseignements déductifs qui ne sont pas inductifs. Deuxièmement, troisièmement, j'allais dire, il faut qu'on veille au respect des prévisions des matières. Mais puisqu'il y a des mots graves, il faut aussi des solutions graves. Mmh. Première solution, au cas où le Covid-19 prendrait fin, parce que Mouyembe a dit, c'est au mois de mai que les pics aura constaté et vers la fin du mois de mai, juin, on aura déjà fini. Au cas où l'état d'urgence prorogé pourra finir dans 15 jours, je pense qu'il faudra qu'on supprime les 2 mois de vacances. Nous parlons des solutions pour sauver l'année. Mmh. Si cela est respecté selon les prévisions scientifiques et les prévisions d'état d'urgence, parce qu'on en dépend, il faudra qu'on supprime les 2 mois de vacances. Les élèves doivent souffrir et ça permettra aux enseignants de récupérer. Mais au cas où très cher GIR, la santé continue à être perturbée et que le Covid-19 continue à faire ravage, il faudra renforcer les téléenseignements. Quand on dit au grand mot des grands remèdes, les téléenseignements qui veulent qu'on puisse enseigner, soit par la radio, soit par la télé, soit par Internet. Et troisième solution, au cas où ça continue, parce que seul Dieu connaît les destins, mais nous avons la foi que ça va finir, il faudra faire ce qu'on appelle en Europe la pédagogie de la réussite. C'est-à-dire quoi? Nous sommes confiants, et nous le pensons avec beaucoup de foi, que cette maladie finira, mais on ne sait pas quand. C'est peut arriver que ça finisse après les 2 mois de vacances. En Europe, aujourd'hui, les élèves ne reprennent plus les classes. Qu'est-ce qu'on fait? Si l'enfant de JR reprend la 5e année où il a échoué avec 40%, on les fait passer des classes. Il continue à étudier l'année supérieure, mais seulement l'année prochaine, il va reprendre les cours dans lesquels il a échoué. Mmh. Les cours ont largement avancé les écoles sérieuses, c'est-à-dire au mois de mars déjà, on avait presque atteint la finalité des cahiers de prévision. Si ça fait que cette pandémie continue et que ça empêche l'étudiant enseignement à faute de moyens, ça empêche qu'on recalcule, on peut seulement tenir compte des travaux que les enfants et étudiants ont déjà fait, on les calcule, que ceux qui auront passé passent des promotions, l'année prochaine, ils reprennent normalement une nouvelle année scolaire et les cours qu'ils auront ratés ou les matières qu'ils auront ratées, on peut le récupérer les dimanches. On me dit par exemple, tel était en 4e, il passe en 5e, il passe quand même parce qu'au regard des travaux réalisés durant ces temps avant la pandémie, il a quand même réussi. Mais puisque la science est importante, on récupère les matières qui ont été ratées durant ces moments. Voilà à mon avis, JR, ces 3 solutions qui nous parlent. Parce que vous avez posé une question pertinente, qu'est-ce faut-il faire pour sauver l'année académique et scolaire? J'ai dit 1, supprimer les 2 mois de vacances au cas où le Covid-19 termine au mois de mai ou début juin. 2, renforcer les téléenseignements qui est pratiqué partout. Les élèves à la maison suivent les cours. 3, renforcer les systèmes d'Internet. Et enfin, tenir compte des travaux qui ont été réalisés et aux universités et ici aux écoles. Et lorsque l'année prochaine sera de nouveau réinstallée, qu'on tienne compte des matières déjà vues. Revoir les matières vues. Voilà mes solutions très chères.
Merci beaucoup.
Mais je pense que pour finir, JR, c'est une occasion pour nous d'informatiser la leçon congolaise, car ailleurs, ce n'est pas un problème.
Voilà, je retiens pour vous, en tout cas, la loi cadre de l'enseignement doit être repensée. Il faut des experts pour en discuter et tendre vers, comme on l'a toujours souhaité. D'ailleurs, c'était l'esprit et la lettre de cette loi cadre, c'est tendre vers l'LMD, la licence, maîtrise et doctorat. Et là, la question sur le numérique doit être prise en compte également. Merci beaucoup, Omar. Alphonse, vous êtes à Kinshasa. Vous êtes enseignant. Merci d'avoir appelé. Bonjour, monsieur Alphonse.
Bonjour.
Vous êtes enseignant au collège Saint-Joseph-Elikia. Quelle lecture faites-vous de la façon dont les autorités de l'enseignement primaire et secondaire gèrent cette situation exceptionnelle?
Ça n'engage que moi. Ça n'engage pas le collège Saint-Joseph-Elikia. Pour répondre à la question comment sauver une année scolaire, cette année scolaire, en période de crise. Je pense que dans un premier temps, il nous faudra juguler la crise, c'est-à-dire réduire, faire en sorte que le taux de contagion dans nos milieux respectifs, c'est-à-dire dans nos familles, de nos familles à l'école, de l'école à la maison, il faudra que nous puissions tout faire pour réduire le taux de contagion. Et de deux, si jamais les enseignements reprennent, il nous faudra conscientiser de temps à autre les apprenants sur la valeur et l'importance de mesures sanitaires de prévention. Et de 3, étant dans la période de gratuité de l'enseignement, il serait intéressant que le gouvernement national et provincial puisse venir en aide aux écoles avec les dons de seaux pour le lavage de mains, à l'entrée, dans chaque salle de classe, des savons liquides, de masques. Et il faudra pas que ça s'arrête là. Il faudra aussi que le gouvernement tant national que provincial puisse accompagner les éventuelles mesures y afférentes. Enfin, quant au calendrier scolaire, cela ne pose pas problème, dans la mesure où le calendrier sera revisé en fonction du temps de confinement que nous aurons mis. Donc c'est un peu ça, si je pouvais donner ma petite contribution pour résoudre ce problème. Je termine en disant que c'est pendant les périodes de grandes crises, notamment les deux guerres mondiales, les plus grandes découvertes ont été, passez-moi le mot, trouvées, inventées, tout ce que vous voulez. Alors, en cette période de pandémie mondiale, moi je pense que nos cerveaux à nous, les Congolais, les cerveaux à nous, les opérateurs de l'enseignement, c'est à ce moment précis que nous devons mettre nos cerveaux en marche pour que nous puissions trouver des solutions idoines.
Merci beaucoup, Alphonse, d'avoir appelé de Kinshasa. On revient à vous, monsieur Mpadou. Le temps de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent aussi participer à cette émission en composant les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969. Radio Okapi.
à Walikale sur 104.9 FM. Okapi.
Monsieur Lambert Mbadou, chef de la province éducationnelle Kine Ouest, vous êtes avec nous en ligne et vous avez suivi cette lancerie des auditeurs. Comment réagissez-vous par rapport aux contributions des uns et des autres?
D'abord, je voudrais intervenir pour donner une information à monsieur Omar, qui croyait que ces mesures pour assurer la continuité pédagogique ne concernaient que les écoles. Les enfants des écoles privées, mais non, ça concerne tous les enfants des écoles de l'enseignement national. L'enseignement national entendait les écoles publiques et privées agréées. Donc, ça concerne tous les enfants. Et puis, il a parlé de passage automatique des élèves. Je voudrais lui dire que nous n'avons pas encore atteint ce stade-là de promotion automatique chez nous. On passe des classes après des évaluations. Et donc, cette proposition-là, il faut changer la loi, il faut corriger la loi pour arriver à faire ça. Dans les pays développés où les conditions de travail, où il y a un nombre d'élèves très réduit, ben ça se fait. Et l'enfant passe de la classe supérieure et les matières où il a eu des problèmes les suivent. Et pour le moment, nous n'avons pas encore cette façon de faire.
Mmh. Voilà, on va retrouver Olivier qui nous a rejoint. Olivier, vous êtes avec nous à Kikwit, bonjour.
Oui, Gilles, bonjour et bonjour à l'invité, à tous les auditeurs.
Quelle est votre contribution, Olivier?
Oui, Gilles, moi j'aimerais qu'on ne puisse pas rêver. C'est-à-dire que le pays est dans un état tel que je demanderais à certaines autorités et à beaucoup de responsables de l'enseignement de faire le tour du pays. Donc il ne faut pas nous faire des propositions qui ne sont pas réalistes et qui ne sont pas réalisables. Moi, je suis à Kikwit, je fais certains tours dans la province. Je vous dis que ça me fait mal quand on parle de téléenseignement, enseignement à distance. Parce que dans le Kwilu, c'est irréalisable et ce serait vraiment une catastrophe si on doit faire ça comme proposition à la République. Et il n'y a pas que le Kwilu. La République est vaste. J'ai fait le tour, vous allez remarquer que ce sont des solutions pour la ville de Kinshasa, peut-être un peu à Lubumbashi, quelques maisons à Goma et ailleurs. Mais ce n'est pas une solution pour la République. Ça, c'est une première chose. Alors, lorsque on parle de récupération, et là aussi, on dit, le souhait, c'est qu'il ne puisse pas y avoir d'année blanche. Ça, c'est notre souhait à nous tous. Parce qu'il est vrai que s'il y a année blanche, l'année prochaine, nous allons souffrir. Mais entre souhait et ce qui est faisable, il y a deux kilomètres d'écart. Donc, nous avons nos spécialistes en santé. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, on puisse nous dire, voilà, si nous arrivons à telle date et qu'on n'a pas encore repris, voici ce que nous allons décider. Parce qu'aujourd'hui, il y a les contraintes sanitaires qu'on ne doit pas oublier. Les contraintes sanitaires. Et si vous dites des confinements progressifs, on dit voilà, les écoles reprennent. Mais vous savez dans quelles conditions étudient nos enfants? Nous avons des écoles de 5 mètres sur... des classes de 5 mètres sur 8 où vous retrouvez 60 élèves dans les classes du primaire. Il y en a à Kikwit, il y en a à Kinshasa, il y en a dans toutes les villes de la République. Et les cours de récréation JR, ce ne sont pas des cours de récréation, ce sont des mini-parcelles des cours de récréation. Ou donc, vous avez une promiscuité qui ne dit pas son nom, mais qui est réelle un peu partout. Et donc, j'estime que les conditions de confinement ne sont pas réunies.
Mais Olivier, tout à l'heure, Jean Bosco, secrétaire général au niveau des SIDECAT, proposait d'ailleurs du 20 avril, aujourd'hui, et au 20 mai, qu'on puisse, au niveau du ministère, faire des propositions concrètes au gouvernement. Un, pour désinfecter les écoles, commencer déjà, prendre des dispositifs dans les salles des classes déjà, mettre des points de lavage des mains, et aussi s'organiser dès qu'il y aura des confinements progressifs, et si jamais on commençait par des écoles, qui aient vraiment ces services de dépistage au niveau des écoles de manière permanente.
Oui, je pense que là, c'est justement le travail qu'on a demandé au ministère, c'est-à-dire que qu'on nous dise, voilà, dépasser telle date, nous serons incapables de fonctionner. Mais si on nous donne autant de jours pour nous préparer, en espérant que le Covid va nous dire, écoutez, je vous lâche, parce que ça, c'est un problème que personne ne maîtrise, et donc, le ministère doit travailler sur ce point-là, et aussi envisager que l'année prochaine, comme l'a dit Omar, que bon, on puisse dire voilà, on supprime les vacances. Mais la proposition de Omar, passer automatiquement, même en Europe, c'est au cas par cas. Ça, ce n'est pas une histoire à proposer en RDC, parce que nous avons des licenciés aujourd'hui qui ne connaissent pas le millimètre. Nous avons des finalistes de l'école secondaire qui ne savent pas comment on peut convertir le kilogramme en gramme. Mmh. Alors, ce n'est pas ça. Si on aide, si on dit voilà, passage automatique, ça c'est renforcer la République. Et moi, je pense que nous devons réfléchir autrement, renforcer l'enseignement.
Donc, vous rejetez en bloc l'idée de la promotion automatique, parce que là, c'est tuer notre enseignement. Surtout que cet enseignement a toujours fait l'objet des critiques. Aujourd'hui, on parle, tout le monde, disons, parle de cette qualité qui a baissé sensiblement.
Oui, ce sont des idées qu'on doit oublier et on peut les envisager si dans 5-10 ans, après évaluation, on constate que nous sommes en train de remonter les niveaux.
Merci beaucoup.
Vous savez, JR, l'UNESCO, à un moment donné, a cherché à nous écarter du circuit de l'enseignement parce que nous sommes plus que médiocres. Donc voilà, je vais
m'arrêter. Merci beaucoup, Olivier. Alain Bolodjo, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour, Alain.
Bonjour, Alain Capi. Bonjour à tout le monde.
Voilà, vous avez la parole, Alain.
Mais moi, je crois que nous devons nous poser de bonnes questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le pays n'est pas contaminé, tout le pays n'est pas infecté. Il y a d'autres provinces qui ne sont pas touchées par cette maladie. Et si on doit se fier à ce qui s'est dit au niveau de l'INRB, il n'y a que 5 provinces qui sont infectées sur les 26. Donc il y avait possibilité de laisser les autres enfants continuer à étudier normalement, comme on avait fait avec Ebola. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas pénaliser tous les autres enfants, justement parce que Kinshasa ou deux ou trois autres provinces étaient infectées. Mais on l'a fait tout simplement parce qu'on a fait les choses par précipitation. Et voilà, aujourd'hui, nous nous posons des questions sur les erreurs que nous avons eues à commettre. Et je crois que c'est pas correct. Ce que nous devons faire, c'est d'abord ouvrir les écoles dans les autres provinces qui ne sont pas infectées. Et deuxièmement, on doit réouvrir les écoles progressivement par rapport à l'évolution de la maladie. Parce que si on doit pénaliser tous les autres enfants justement parce que Kinshasa est infecté, moi je trouve quelque part c'est injuste. La possibilité de récupérer les enfants qui vont connaître des retards l'année prochaine, c'est vrai, mais que ça ne soit pas tous les enfants. Parce que si vous prenez par exemple la province de la Tchopo, vous prenez Otuélé, Bazuélé, Tchouapa, Équateur, Kouangou, Kouilou, s'il n'y a pas des gens qui sont infectés là-bas, les enfants pouvaient étudier normalement. Et
merci.
Là, on allait juste récupérer voilà. les enfants qui vont connaître des retards.
Désolé, Alain, on ne saura pas aller plus loin avec vous, Alain, parce que les minutes sont comptées. Nous allons juste conclure avec notre invité, Monsieur Lambert Mbadou, prophète de Kine Ouest. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est possible de sauver cette année scolaire.
Eh bien, je vous l'ai dit, nous aspirons tous au retour à la vie normale. Nous avons déjà fait les 3/4 de l'année scolaire, et donc nous sommes suspendus aux décisions des experts. Notre souhait, c'est de voir l'année ne pas être déclarée blanche parce qu'il n'y a pas de raison. Et quand aux propositions faites par le secrétaire des Sénécat, M. Jean Bosco Puna, il appartient au ministre de prendre cette décision.
Voilà, merci beaucoup Lambert Mbadou, prophète de Kine Ouest, d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à Sylvain Barguéré qui l'a mise en onde et Tatima Poukou a assuré la réalisation de ce programme qui a bénéficié la coordination des JR Lungembo Luabung Anji. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro des Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.